Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous. L'étau se resserre en Algérie en ce vendredi pour la 4e fois consécutive. Pas de manifestation, pas de marche. Les forces de sécurité sont là pour les en empêcher. La colère gronde dans le pays puisqu'il n'y a plus ce lieu exutoire qu'étaient ces manifestations à la fois du vendredi pour la société civile et puis le mardi plus spécifiquement pour les étudiants. Un collectif de partis politiques algériens dénonce une réalité de plus en plus intenable. Ce sont les mots des forces du pacte de l'alternative démocratique. L'autorité centrale algérienne aujourd'hui essaye de mettre fin aux marches en espérant mettre fin au Irak. Or, ce n'est pas la même chose, dit-on, dans ce mouvement politique. L'objectif, c'est que Alger puisse aller jusqu'au bout de son processus d'élection législative qui est prévu le 12 juin prochain. Surprise en Tunisie et une mauvaise surprise pour les consommateurs tunisiens avec ces hausse des prix pour certains produits de consommation essentielle ainsi que dans les transports publics. Le gouvernement Mechichi s'y est réduit, forcé et contraint par les négociations avec le Fonds monétaire international. Le FMI réclamait qu'il n'y ait plus de programme de subvention sur certains produits de base en Tunisie. Bien évidemment, cela pose un véritable problème pour les ménages aux faibles revenus. Mais d'un autre côté, si le gouvernement tunisien veut pouvoir emprunter auprès du FMI, il est obligé d'envoyer des signes de bonne gouvernance. En tout cas, dans l'immédiat, cela pose un véritable problème à la fin du mois de juin. D'aucuns se demandent comment ils vont faire pour pouvoir boucler leurs comptes. Et c'est le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, qui a reçu une délégation du groupe pétrolier italien Eni. Officiellement, il s'agissait de parler de la promotion de l'investissement des énergies renouvelables. En clair, de parler de l'avenir du solaire dans ce pays. Il y a du soleil en Tunisie, c'est l'occasion pour produire de l'électricité peu chère. En fait, l'entretien a tourné sur les déconvenues qu'a rencontré la compagnie Eni en Tunisie. Eni qui avait déjà travaillé dans le passé sur le solaire, mais lorsque Eni a été en capacité de produire de l'électricité, elle s'est heurtée aux froideurs locales, aux acteurs nationaux de la distribution d'électricité qui ne l'ont pas laissé à la compagnie italienne le champ libre pour pouvoir imposer ses produits et participer à la diminution du coût de la facture énergétique tunisienne. Tunisie avec toujours des mouvements sociaux. Cette semaine, les profs arrêtaient de travailler. Les enseignants donc ont suspendu leurs cours. Il y a même des mouvements qui ont été pris au dernier moment dans la localité de Tal Alet, dans la région de Tataouine, au nord de Tataouine. Il y a des enseignants qui ont décidé ces dernières heures d'arrêter de travailler pour pouvoir protester contre les conditions de travail qui sont les leurs et puis également l'inégalité des chances des élèves, notamment en cette période de Covid-19. Et puis le secrétaire général du syndicat des pharmaciens a créé la stupeur en annonçant la suspension de la vente des tests rapides contre le Covid-19. Suspension décidée suite à une série de problèmes organisationnels. La formation des agents dans les officines qui sont à même de rendre ces tests rapides, les techniques de prélèvement, les documents que le pharmacien doit également fournir aux patients, sans oublier le montant de ces tests qui a été évalué à 20 dinars. C'est trop peu, disent les pharmaciens, pour que ceux-ci réussissent à s'en sortir. Résultat, ils ont décidé de suspendre la vente de ces tests. Greenpeace, organisation internationale qui lutte en faveur de l'environnement et de la faune animale, s'alarme de la situation halieutique au large des côtes de la Mauritanie, du Sénégal et de la Gambie, puisque les poissons, les petits pélagiques, sont souvent utilisés pour faire de la farine et de l'huile de poisson, qui sont ensuite vendus à l'Union européenne ou encore à la Norvège. La Norvège utilise ces produits pour faire de l'élevage de saumon notamment. Ce sont plus d'un demi-million de tonnes de petits poissons pélagiques qui sont extraits ainsi chaque année des côtes de l'Afrique de l'Ouest, qui sont transformés en aliments pour l'aquaculture ou encore l'agriculture. Ceci pose un véritable problème, d'abord pour les populations locales, parce que tous ces poissons, eh bien, c'est toujours ça de moins à manger, en Mauritanie, au Sénégal et en Gambie. Et puis aussi, cela fait porter une pression importante sur la masse globale, sur la ressource halieutique de ces trois pays d'Afrique de l'Ouest. Idée originale, mais pourquoi pas à Tripoli, pourquoi pas créer un cordon de sécurité tout autour de la ville? C'est l'hypothèse qui a été émise par le directeur de la direction de la sécurité de Tripoli, qui a organisé une réunion pour essayer de voir comment il serait possible pour lutter contre les délits qui sont liés au vol, mais également plus grave aux enlèvements crapuleux ou même au trafic de drogue, au trafic d'êtres humains. Donc l'idée serait de coordonner des opérations entre plusieurs services de sécurité afin de créer un cordon tout autour de la capitale libyenne et pour au moins sécuriser la vie quotidienne sur le cœur de Tripoli. Et restons en Libye avec cette date à noter sur nos tablettes, le 23 juin. C'est la date retenue pour la seconde conférence de Berlin consacrée à la Libye. L'événement se tiendra conjointement avec le secrétaire général de l'ONU, Guterres, et puis également les ministères des Affaires étrangères concernés. Le gouvernement libyen unifié participera à ce sommet pour faire le point sur le développement politique, sur le retour à la normalité et l'espérance d'une réunification du pays avant les élections prévues à la fin de l'année.
Afrique à feu et à sang.
Nous nous rendons aujourd'hui en Afrique, en terre malienne, où la France a décidé de suspendre ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Ceci est en réaction à ce deuxième coup d'État, ce deuxième coup de force réalisé par le colonel Goïta, qui a remercié, après une arrestation tout de même, le président et le premier ministre. Le Mali a été exclu temporairement de l'Union africaine. Toutes les capitales de la sous-région se sont émues de la façon dont les militaires géraient les affaires du pays. La France est également tout à fait contre ce mode de comportement et la France le fait savoir avec cette décision qui est suspensive, bien évidemment. Si demain il y a un retour à la normale, il est évident que la France reprendra ses opérations militaires conjointes. En attendant, près de 300 hommes qui habituellement soit combattent aux côtés des forces maliennes, soit procèdent à des exercices de formation. Ils procèdent aussi à des exercices de tir, également à du travail sur du renseignement, également à du travail sur la logistique, sur l'organisation des hommes, sur la façon de monter des opérations. Tout ce travail au quotidien d'une force armée engagée sur le terrain, eh bien tout ceci est gelé. C'est un geste de mécontentement significatif de la France, qui est une puissance motrice à la fois sur Barkhane, mais aussi sur la force Takuba, la France qui est en capacité aussi de générer des hommes sur zone. C'est vrai qu'elle a beaucoup influé pour que les Tchadiens aussi fassent le déplacement et viennent au Mali. Ce travail qui a été fait par la France, eh bien, il est quelque peu amoindri par ce processus politique qui n'en est pas un à Bamako. Et pour manifester son mécontentement, les Français ont dit stop, maintenant nous arrêtons de procéder ainsi. Pour l'instant, à Bamako, le colonel Goïta continue les tractations politiques, il reçoit, il écoute, il essaye de mettre en place un système de transition qui serait efficient et qui ne se solderait pas par des arrestations comme on l'a vu avec le président et le premier ministre. Est-ce que Goïta va réussir à aller jusqu'au bout de ce processus et, comme il l'a promis, un jour rendre le pouvoir aux civils? C'est toute la question qui se pose. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.